9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bienvenue dans C'est arrivé cette semaine. Le Premier ministre Jean Castex a étendu le couvre-feu à 38 nouveaux départements et un territoire d'outre-mer, soit 46 millions de Français au total, et cela pourrait se durcir encore. Notre situation est-elle si mauvaise que cela? On fait le point sur le virus avec le professeur Antoine Flahaut qui dirige l'Institut de santé globale à l'Université de Genève. Il surveille attentivement ce qui se passe dans le monde entier. Il va nous dire où en est la France. Il y aura ensuite la juriste Mireille Delmas-Marty, professeure émérite au Collège de France. Dans une tribune publiée dans Le Monde, elle s'inquiète que l'assassinat de Samuel Paty ne nous encourage à nous passer de l'état de droit comme certains le demandent déjà. Et enfin, on terminera l'émission avec Jean-Michel Djian qui consacre un livre à Ivan Illich, l'homme qui a libéré l'avenir. D'autant plus intéressant que ce qu'Ivan Illich, le père de l'écologie politique, annonçait il y a 50 ans, se retrouve aujourd'hui en plein dans l'actualité. Bonjour Antoine Flahaut, merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous dirigez l'Institut de santé globale à l'Université de Genève. Vous êtes docteur en médecine et en biomathématiques. Vous êtes professeur de santé publique. Vous travaillez sur la surveillance électronique des maladies, sur l'épidémiologie prévisionnelle. Vous avez donc, depuis le début de la crise du coronavirus, un regard global. Alors en France, on n'emmène pas large. Le Premier ministre a étendu le couvre-feu à 46 millions de Français. Et cela pourrait se durcir encore, a-t-il prévenu. Et notre situation est-elle si mauvaise que cela ?
Alors, la situation est préoccupante dans toute l'Europe, c'est certain. Elle fait face à une vague automnale qui semble assez forte. Mais la situation française est plutôt parmi celles qui sont, je dirais, les meilleures en Europe si on regarde la force de cette vague, de l'arrivée de cette vague. Il y a un critère qu'on appelle le taux de reproduction, le fameux R dont on a souvent parlé. Et ce R a une valeur qui devrait être au-dessous de 1 pour être sous le contrôle, pour avoir une épidémie totalement contrôlée. On est tous au-dessus de 1 en Europe, mais par exemple en Suisse, on est au-dessus de 1,4. En France, on est à 1,1, 1,2. On est donc dans une épure qui est encore contrôlable, on va dire.
C'est mieux aussi qu'en Allemagne, d'ailleurs.
Oui, l'Allemagne est partie un peu plus tard. Elle avait contrôlé plus longtemps pendant l'été le processus de circulation du virus. Elle est partie un peu plus tard, mais avec une force plus élevée. Donc pour l'instant, on a... Alors ce que l'on peut aussi dire, c'est que cette force, partout en Europe, est deux fois inférieure, et en France donc un peu plus de deux fois inférieure, à celle que l'on a connue au mois de mars ou au mois d'avril. Donc on est quand même dans un processus qui n'est pas le même que celui du mois de mars ou d'avril.
Le but évidemment c'est de passer en dessous de 1. Alors il y a un premier levier, ce qu'on appelle les gestes barrières. Visiblement là on active un deuxième levier qui consiste à réduire les contacts entre les gens. Ce serait ça le but du confinement nocturne.
Oui, ces leviers il faut les comprendre comme des freins. On a eu tout l'été un très bon contrôle de l'épidémie. Il n'y a pas eu de remontée des hospitalisations, il n'y a pas eu de lits de réanimation encombrés, il n'y a pas eu de remontée des décès. Les deux freins qu'il y avait, c'était celui que vous mentionnez, les gestes barrières, qui très vite après le déconfinement ont été mis en place. Et puis, le deuxième frein, c'est le frein estival. C'est la saison. Il se trouve que sur les virus respiratoires, la saison est un frein puissant. C'est pas un blocage. Aux États-Unis, ils n'ont pas réussi à bloquer l'épidémie. Ils ont eu une épidémie beaucoup plus forte qu'en Europe. Mais en Europe, tous les pays, collectivement, finalement, ont eu une action qui a été suffisante pour que le frein estival permette un blocage pendant tout l'été. Évidemment, ce frein estival est levé aujourd'hui et on a donc à compenser ce frein estival par un nouveau levier qui ne peut plus être les gestes barrières puisqu'on les fait, ça il faut toujours faire les gestes barrières. Ce premier frein, il faut le laisser le plus possible, efficace, mais il faut ajouter un nouveau frein qui est la réduction du nombre de contacts. Aujourd'hui, on va tous être, sollicités ou focalisés sur réduire le nombre de contacts sociaux que nous avons.
Est-ce qu'on risque d'être reconfiné totalement, comme c'est le cas déjà de 7 millions d'Espagnols, des Gallois, est-ce que c'est envisageable ?
Alors déjà, on voit même que les Gallois, par exemple, n'ont pas mis en place un confinement totalement à l'identique de ce qu'il y avait eu en mars ou en avril. C'est déjà, ils ont annoncé la couleur, c'est un confinement pour 15 jours. Alors le confinement, c'est l'essai de bloquer les contacts le plus efficacement possible. Et le fait est que c'est une mesure, lorsqu'elle est comme ça généralisée, qui est efficace. En faisant cela, on sait qu'on sera efficace. Ce que l'on peut penser, c'est que puisque l'on part de moins haut qu'au mois de mars ou d'avril, peut-être n'avons-nous pas besoin de mettre toutes les mesures de confinement en branle. On n'est pas obligé de prendre tout le package, si je puis dire. C'est un peu un menu, vous savez, les mesures de confinement. Les Français qui ont mis le couvre-feu ont mis une mesure de confinement nocturne.
Est-ce qu'on est obligé d'en repasser par ce type d'interdiction ? Les Suédois nous ont montré qu'on peut le faire sans qu'on nous y oblige, en tout cas sans qu'on y oblige les Suédois.
Oui, alors vous avez tout à fait raison, je pense, de dire les Suédois nous ont montré qu'on peut le faire, c'est-à-dire qu'ils ont fait du confinement. On a souvent caricaturé l'approche suédoise comme si ça avait été une approche de laisser-faire. Pas du tout. Les Suédois sont très disciplinés en réalité. Ils écoutent beaucoup les recommandations d'auto-confinement. Et lorsqu'on leur dit il faut baisser votre nombre de contacts, lorsqu'on leur propose de télétravailler, lorsqu'on leur propose de moins prendre les transports publics ou de moins bouger, eh bien, ils le font très spontanément. Hein. Le niveau du trafic routier a diminué de 90% en Suède pendant la période de confinement. Les lignes domestiques aériennes ont été clouées au sol, pas du tout par la loi, pas du tout par un décret gouvernemental, mais parce qu'il n'y avait plus de clients. Donc, et puis les bars et les restaurants sont restés ouverts, vous avez raison, mais il y avait 25% d'affluence par rapport à la normale. Donc on peut dire que c'est un peu une approche que tout le monde a envie de privilégier, mais il faut évidemment une population qui adhère à ces mesures, qui les comprenne de façon, je dirais, très majoritaire, pour que l'effet soit le même que le confinement. On a besoin de réduire ce nombre de contacts parce qu'on n'a pas de vaccin et parce que l'on est obligé d'avoir ces mesures un peu archaïques et puis extrêmement pénalisantes sur le plan social et économique. Et on n'est peut-être pas obligé de tout faire de façon par la loi et par je dirais, le renforcement de la réglementation, mais en essayant d'associer le plus possible les citoyens. Les pays nordiques, de façon générale, ont l'habitude de faire ça en santé publique.
On fait une pause, Antoine Flao, on se retrouve juste après.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï.
Nous sommes de retour avec Antoine Flao qui dirige l'Institut de Santé Globale à l'Université de Genève. Puisque vous avez, depuis le début, je l'ai dit, de la crise du coronavirus, un regard global, Antoine Flao, regardons ce qui se passe toujours dans l'hémisphère nord, mais tout à l'est, le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, Singapour. Dans quelle situation sont ces pays aujourd'hui ?
Alors, en effet, ils sont dans une situation qui peut paraître un peu paradoxale, parce qu'ils sont soumis, comme nous, dans l'hémisphère nord, zone tempérée, aux rigueurs des premiers assauts du froid, et ils semblent ne pas subir cette vague automnale. Alors vous savez, la saison froide va être longue, et peut-être on a bien vu que ce coronavirus avait une façon d'agir qui n'était pas toujours homogène. Il pouvait très bien sauter un continent, comme il l'a fait quand il est arrivé en Europe, puis après il est parti aux États-Unis et en Amérique latine. Il est tout à fait possible qu'il revienne à nouveau en Chine pendant la saison hivernale. Une autre hypothèse, ou en tout cas une hypothèse qui pourrait expliquer pourquoi la situation aujourd'hui est si favorable, c'est-à-dire qu'il y a très peu de cas de coronavirus, il y a très peu de mortalité observée dans tous les pays que vous avez cités, mais aussi
le
en
Japon,
Chine.
Le Japon, la Corée du Sud, Taïwan,
Japon,
Singapour.
Oui, c'est ça. Hong Kong, tous ces endroits sont des endroits très calmes. Le Vietnam aussi, même si les données sont peut-être un peu moins précises, mais on sait que la Thaïlande est très, très calme aussi. Donc tout le sud-est asiatique semble très, très calme aujourd'hui vis-à-vis du coronavirus. Et une des hypothèses aussi est que leurs actions ont été plus efficaces. Alors leurs actions étaient très différentes d'un pays à l'autre. Les Chinois ont eu recours et ont toujours recours à des confinements très strict à chaque fois qu'ils voient quelques cas, quelques clusters. Les Japonais, les Coréens ont surtout recours à des démarches très personnalisées, très individualisées, de traçage, c'est-à-dire de recherche de contact, qui est très original et dont on pourra reparler si vous voulez.
Oui, oui, mais justement, alors cette recherche de contact, comment s'opère-t-elle? Comment nous voient-ils les Japonais et comment peut-on les regarder?
Alors, nous, vous savez, la recherche des contacts, on l'appelle prospective. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que quand vous avez un cas, ben, vous recherchez les contacts de ce cas. Ça, c'est ce qu'on fait dans tout l'Occident. Mais les Japonais ont réalisé que 10 à 20% des cas étaient à l'origine des supercontaminations, ces chaînes de superpropagation qui, en fait, font toute l'épidémie. C'est-à-dire que 80 ou 90% des contaminés ne contaminent personne ou contaminent moins d'une personne, ce qui fait qu'ils n'ont pratiquement aucun rôle dans la contamination. Donc il faut vraiment essayer d'aller retrouver ces 10 à 20%.
Ceux qui contaminent tous les autres.
Voilà. Si vous ou moi, nous sommes contaminés, eh bien, nos contacts n'ont pas un grand intérêt. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de savoir qui nous a contaminés. Parce que la personne qui m'a contaminé est probablement, beaucoup plus probablement, un super contaminateur que moi je ne le serais. Puisqu'elle m'a contaminé moi, eh bien, peut-être qu'elle a contaminé 2, 3, 10 personnes, 100 personnes. Il est arrivé de voir des contaminations avec plusieurs milliers de personnes. Donc si on arrive très tôt à aller repérer ces chaînes de super contamination, disent les Japonais, et c'est tout ce qu'ils ont mis en œuvre, pas avec d'ailleurs un déploiement d'énormément de tests, ils testent beaucoup moins quantitativement que nous, mais ils vont chercher ces supercontaminations à leur source le plus tôt possible, et à ce moment-là, ils ont quelque part un temps d'avance pour empêcher ces supercontaminations de se propager dans la communauté. C'est ça un peu leur recette, ou la recette qu'ils annoncent, et que bien sûr les Coréens également ont mis en œuvre.
Les tests, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui?
Alors, les tests, on peut dire qu'on a une petite déception avec les tests qu'on appelle antigéniques salivaires. En tout cas, pour le moment, on n'arrive pas encore à faire un test antigénique salivaire qui puisse être rapide, pas cher et performant. En revanche, on a quand même, une bonne opportunité de faire des tests PCR salivaires. Alors, je m'explique. Aujourd'hui, vous savez qu'on met un écouvillon dans le nez, assez loin, dans les fosses nasales, pour aller gratter un petit peu dans la muqueuse pharyngée et retrouver du coronavirus quand il y en a. Ce test, c'est la PCR classique. Ce test est assez éprouvant, il n'est pas très confortable et il est difficile à faire chez les petits-enfants. Prendre la salive, essayer de sécréter un peu sa salive dans sa bouche pendant 1 ou 2 minutes, la prélever, on peut presque le faire soi-même. On n'a pas besoin d'écouvillon. Et là-dedans, la PCR, c'est-à-dire la présence du virus, elle est aussi importante que pratiquement que dans le fin fond de notre fosse nasale. Alors ça vaut peut-être le coup de passer de ces tests PCR nasopharyngés un peu désagréables à des tests salivaires, mais de PCR, qui ne seront pas des tests très rapides et immédiats, mais qui permettront peut-être de quand même au moins changer la donne, parce que ils permettront de mieux analyser les enfants, de mieux répéter ces tests lorsque c'est nécessaire, et de faire un progrès. Donc je pense que en termes de tests, les tests salivaires de type PCR devraient maintenant remplacer progressivement ceux des prélèvements nasopharyngés.
Et aujourd'hui, que sait-on du taux de létalité? On l'a beaucoup entendu, ce mot. Il est autour de combien?
Alors, le taux de létalité, il dépend énormément de la stratégie de testing. Si vous faites beaucoup, beaucoup de tests, vous allez avoir beaucoup de gens asymptomatiques, surtout si dans les tests, vous associez les contacts qui ne sont pas du tout symptomatiques, qui ne sont pas malades et qui ne le deviendront peut-être jamais. Alors, vous allez avoir une mortalité qui va être beaucoup, beaucoup plus faible que si vous faites ce que nous faisions ou ce que les Français faisaient en mars, c'est-à-dire de ne tester pratiquement que les gens qui étaient hospitalisés. Donc, le taux de létalité n'a pas un énorme intérêt pour savoir si on a fait des progrès en matière de prise en charge des malades. Ce qui est plus intéressant, c'est de voir que les personnes hospitalisées aujourd'hui en soins intensifs, en réanimation, qui sont donc les gens les plus graves, ont une mortalité qui a diminué de moitié. C'est énorme, hein, en l'espace de 6 mois, parce que finalement, c'était dès le mois de juin, on savait prendre en charge les personnes qui étaient les plus sévères et qui arrivaient en réanimation de façon à ce que leur mortalité soit très inférieure à celle que l'on enregistrait et qu'on observait malheureusement au mois de mars. Et ce n'est pas tellement lié à nouveaux médicaments miracles. C'est lié à des techniques de réanimation plus performantes, parfois moins agressives aussi. On ventile, on intube moins souvent et moins rapidement, je dirais, les malades, parce qu'on s'est aperçu que c'était plutôt un geste agressif qui parfois empirait le pronostic. Donc on a pris des leçons du passé très récent. Et bien sûr, on a aussi des médicaments, la dexamétasone, qui vraiment permet, dans les cas très sévères, de réduire beaucoup la mortalité, le remdesivir, et puis quelques médicaments qui commencent à arriver un petit peu, et tous ceux qui sont en test, dont certains sont prometteurs, et peut-être aura-t-on des bonnes nouvelles dans les semaines ou les mois qui vont venir.
Eh bien, terminons sur cette note optimiste. Merci, professeur Antoine Flahault, d'avoir été avec nous sur Europe 1.
Merci, au revoir.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï.
Bonjour Mireille Dalmas-Marty, vous êtes juriste, professeur émérite au Collège de France et vous venez d'écrire une tribune dans Le Monde où vous vous inquiétez pour l'état de droit qui est pourtant le socle de notre démocratie. Alors pourquoi ?
Écoutez, il me semble que l'état de droit il est attaqué de tous côtés parce que nous sommes dans une sorte de crise permanente depuis quelques années maintenant. Il y a eu le terrorisme qui a commencé assez tôt avec le 11 septembre 2001, mais qui s'est poursuivi jusque maintenant. Il y a la crise sociale, il y a la crise financière, il y a la crise sanitaire. Et ce qui m'inquiète particulièrement maintenant, c'est qu'on a une sorte d'entrecroisement. Alors qu'il y a état d'urgence sanitaire, voilà que l'urgence terroriste apparaît. Donc ça me paraît quand même des chocs violents chaque fois pour l'état de droit. C'est-à-dire pour un état qui est supposé soumis au droit.
Vous parlez d'un basculement en France vers un droit pénal de la sécurité, un droit policier, voire guerrier. Qu'est-ce que vous entendez par là ?
Jusque-là, le principe, c'était un droit pénal de la responsabilité. C'est-à-dire qu'au fond, tout notre système est construit sur l'idée que c'est la faute qui est ensuite punie. Donc on est dans une logique de faute, de culpabilité, de punition, de proportionnalité de la faute, de la punition à la faute. Et on est en train de basculer vers un droit pénal de la dangerosité. C'est plus du droit pénal à proprement parler, c'est un droit sécuritaire, c'est-à-dire que c'est plus la faute, il n'y a plus une peine, mais il y a une dangerosité, un danger, et à ce danger, on répond par une mesure de sûreté qui est beaucoup moins, comment dire, ciblée que la punition proprement dite, parce que la dangerosité, c'est un concept vague, donc la mesure de sûreté elle-même, elle est de durée indéterminée. Ce qui fait qu'on avait un droit pénal au fond discontinu et on arrive à une sorte de contrôle social continu et de répression continue. Et puis je dis que c'est on passe à un droit policier voire guerrier parce que en fait c'est plus le fait de commettre une infraction qui provoque la rétention, la détention, c'est le fait d'être considéré comme dangereux, ce qui est quelque chose de beaucoup plus flou, beaucoup plus vague. Et je crois que c'est ça qui est le glissement vers quelque chose qui n'est plus circonscrit. Alors, vous savez, c'est le risque de voir pratiquement tous nos comportements placés sous contrôle. C'est le risque d'une société du tout contrôle et pas d'une société de la responsabilité.
La démocratie, dites-vous, ne consiste pas seulement dans la majorité des suffrages, parce que la majorité des suffrages, ça peut très bien conduire à des despotismes légaux, mais des despotismes. La démocratie suppose aussi la résistance des droits de l'homme et de l'état de droit. En fait, les juges sont les gardiens de nos libertés, c'est ça ?
Oui, c'est d'ailleurs ce que dit l'article 66 de notre Constitution. Nul ne peut être arbitrairement détenu, et c'est l'autorité judiciaire qui est gardienne, le mot est dans la Constitution, de la liberté individuelle et du respect de ce principe dans les conditions légales. Donc on a un principe très fort qui est inscrit dans la Constitution et qui se retrouve d'ailleurs dans les grands textes internationaux, à commencer par, pour ce qui nous concerne, la Convention européenne des droits de l'homme. La liberté, les libertés individuelles sont là aussi placées sous le contrôle, l'autorité du juge, des juges. Les juges, parce qu'il y a les juges nationaux, il y a les juges internationaux, notamment la Cour européenne des droits de l'homme. Mais d'abord les juges nationaux, y compris le Conseil constitutionnel. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu récemment cette controverse à propos du statut du parquet. Parce que le parquet n'est pas un juge, le procureur n'est pas juge, mais il a de plus en plus de pouvoirs qui étaient autrefois ceux du juge d'instruction ou ceux de la juridiction de jugement. Et il y a une sorte de transfert qui fait que le parquet devrait être plus indépendant et plus impartial dans la mesure où son rôle se rapproche de celui du juge.
Alors justement, tous ces contrôles, certains voudraient s'en débarrasser. On a l'idée qu'on est en guerre et qu'on doit s'affranchir des règles et qu'on doit s'affranchir des contrôles. C'est ça que vous redoutez?
Oui, bien sûr. Le mot de guerre est un peu ambigu parce que la guerre, ce n'est pas la même chose que le crime. Or là, il y a une sorte de confusion des deux. Ça n'a pas commencé en France, d'ailleurs. Cette confusion, elle a commencé aux États-Unis. Après le 11 septembre, quand on a dit que les terroristes étaient des combattants illégaux, alors comme combattants, ils échappaient au régime juridique de ce qu'on appelle les droits de la défense, et comme illégaux, ils échappaient aussi aux garanties du droit de la guerre. Donc c'était un peu l'idée de mettre la situation hors la loi, en dehors de toute loi. C'est ni le droit de la paix, ni le droit de la guerre. Alors c'est toujours un peu dangereux d'utiliser la métaphore guerrière quand on est dans une situation qui relève en fait du droit national.
Et c'est ce qui a donné
aux
États-Unis.
Droit de la période où il n'y a pas de déclaration de guerre. Parce que quand on dit guerre, ça entraîne toute une série de dispositifs. Il y a une déclaration de guerre et il y a surtout il faut pouvoir conclure la paix après la guerre. Et là, on voit pas très bien avec le terrorisme quand et avec qui conclure la paix. Donc je crois qu'on reste en fait dans une logique de droit pénal et pas dans une logique de véritable droit de l'ennemi.
Ne quittez pas Mireille Delmas-Marty, on se retrouve juste après ça.
9h-10h, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes toujours avec Mireille Delmas-Marty, professeure émérite au Collège de France, qui a publié avant-hier une tribune dans Le Monde. Mireille Delmas-Marty, d'ailleurs, est-ce que vous avez hésité avant de publier cette tribune? Vous êtes juriste, mais vous êtes aussi une conscience. Et on voit bien, depuis l'assassinat de Samuel Paty, on cherche des coupables. On admet de moins en moins d'autres sons de cloche ou des rappels à l'ordre tels que celui que vous avez fait, là. Allô?
Oui.
Vous avez hésité avant d'écrire cette tribune, avant de la publier?
Non, je n'ai pas vraiment hésité parce qu'il me semblait important d'attirer l'attention sur justement cet entrecroisement entre une crise qui était déjà grave, qui est la crise sanitaire, qui est loin d'être terminée, et puis la crise terroriste. Donc je crois que je partage comme tout le monde l'indignation devant cet assassinat particulièrement barbare et dans des conditions inacceptables. Donc je ne cherche pas du tout à justifier l'acte criminel, surtout quand il est d'une telle barbarie. Mais en revanche, je pense que comme juriste, on doit se poser la question: comment adapter le droit? Comment défendre la démocratie sans la détruire? Vous savez, c'était la crainte de la Cour européenne des droits de l'homme il y a pas mal d'années déjà, quand elle disait, attention, de ne pas détruire la démocratie au motif de la défendre. Et ça, c'est l'inquiétude permanente, parce qu'il faut en même temps garder des limites. Je disais tout à l'heure, le droit pénal de la responsabilité est discontinu. Ça veut dire qu'il ne s'applique pas en permanence lorsqu'il y a simplement dangerosité. Ce qui me paraît inquiétant, c'est au fond, petit à petit, c'est comme si on remettait en cause notre devise républicaine, les libertés, égalité, fraternité. On entend de plus en plus sécurité, je dirais prédictibilité et efficacité, qui sont en train de remplacer notre bonne vieille devise républicaine. Donc tout cela me paraît devoir être dit, et comment dire, encadré à la fois par le Parlement. Je m'inquiète quand je vois que le Parlement est moins consulté, par exemple, sur la décision concernant le couvre-feu. Donc, je pense qu'il faut que le cadre ne soit pas seulement du pouvoir exécutif, il faut que le Parlement soit présent et il faut que les juges puissent jouer leur rôle. Ce que fait d'ailleurs le Conseil constitutionnel, il a censuré récemment deux lois qui allaient trop loin en matière de lutte contre le terrorisme et il l'a fait avec mesure. Il n'a pas tout censuré, il a maintenu les dispositions les plus importantes, mais il a censuré les excès, les déséquilibres.
Mais même ceux qui se disent démocrates, au fond, ont tendance à douter des capacités d'une démocratie à gagner une guerre, en tout cas avec les moyens de la démocratie. Ils ont l'air d'oublier que les démocraties au cours du XXe siècle ont toujours fini par l'emporter sur les régimes autoritaires, sur les dictatures ou sur les systèmes totalitaires. Mais on a toujours des doutes.
Écoutez, à l'heure actuelle, le problème est particulièrement difficile parce que les défis qui sont lancés aux démocraties sont lancés à l'échelle globale. La crise sanitaire, c'est pas un seul État qui pourra la résoudre. La crise climatique, c'est pas un seul État qui pourra la résoudre. La crise financière non plus. Les questions au sujet des migrations ne sont pas purement nationales. Donc les grands défis, le terrorisme d'ailleurs lui-même a une dimension globale. Donc les grands défis se posent à l'échelle globale. Et la démocratie reste attachée au niveau de l'État. Donc il y a une sorte de distorsion entre un défi qui est global et une réponse qui reste nationale. Et ça, c'est quelque chose de préoccupant parce que, en réalité, ça nous mène à ce qu'on commence à voir, ces discours catastrophistes, mais qui n'ont pas totalement tort. C'est, vous savez, ce qu'on appelle le grand effondrement qui nous est annoncé du côté plutôt de l'environnement, mais qui est inquiétant et qui pourrait nous amener à faire le raisonnement que vous faisiez, c'est-à-dire à dire la menace est tellement forte que la démocratie n'est pas capable d'y répondre, il faut un régime beaucoup plus autoritaire, voire totalitaire. Mais ça, c'est en quelque sorte la réponse de la Chine. À l'heure actuelle, y compris par rapport à la crise sanitaire, la réponse était le tout contrôle. Le problème, c'est que le tout contrôle, une fois qu'il est institué, il est très difficile à remettre en cause. Parce qu'il y a toujours ici ou là une raison, une bonne raison pour maintenir le tout contrôle. Alors, est-ce qu'on est réduit à l'alternative ou l'effondrement ou ce que j'appellerais l'asservissement ? L'asservissement, c'est-à-dire le contrôle permanent de chaque être humain, de chaque individu. Et ça, c'est un contrôle qui devient possible avec les nouvelles technologies telles qu'on voit et telles qu'on commence à les utiliser, pas seulement en Chine, mais aussi chez nous. Donc il y a une situation inédite et ça me paraît quelque chose de très préoccupant. Est-ce qu'on peut imaginer un troisième modèle qui ne soit ni le grand effondrement, ni le grand asservissement ? C'est ça mon interrogation à l'heure actuelle. Quel serait ce troisième modèle ? Est-ce qu'on peut bâtir un modèle viable uniquement sur la peur.
En effet, merci Mireille Delmas-Marty d'avoir été en direct ce matin sur Europe 1. On se retrouve dans un instant avec Jean-Michel Dian.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï.
Bonjour Jean-Michel Dian.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, documentariste. Vous sortez un livre aux éditions du Seuil sur Ivan Illich, l'homme qui a libéré l'avenir. Alors, Ivan Illich, vous l'avez rencontré de son vivant. Il nous a quittés en 2002 à l'âge de 76 ans. C'est le penseur de l'écologie politique qui, dans les années 70, a transgressé beaucoup d'idées reçues sur l'école, sur l'hôpital, sur les transports. C'est l'auteur de La convivialité, qui fut un grand best-seller. Il a eu beaucoup d'influence et surtout, il a aujourd'hui beaucoup d'actualité. Alors, sur l'école, par exemple, commençons par cet exemple, puisqu'Emmanuel Macron veut rendre l'école obligatoire dès l'âge de 3 ans. On sait que l'instruction est obligatoire en France, mais pas l'école. L'école, on y voit un creuset universel de l'émancipation des futurs citoyens. Pas du tout, c'était pas du tout le cas d'Ivan Illich. Hein.
Non, pas du tout. Il a écrit un pamphlet majeur dans les années 70 qui s'appelle « La société sans école ». Au fond, c'était déjà une mauvaise traduction de l'américain, puisqu'au fond, c'était la déscolarisation. Voilà, il s'est mis à, après son expérience pastorale dans les quartiers de portoricains à Manhattan, il s'est mis à dénoncer le creuset des inégalités. Et lui-même s'est mis à penser l'école comme un lieu d'inégalité structurelle.
Oui, c'est l'inverse de ce que l'on pense, nous. Ben,
exactement.
Hein.
C'est-à-dire qu'au fond, à l'époque, d'ailleurs, on rigolait, certains rigolaient. Mais pratiquement, les années passant, voyant l'école publique notamment essayer justement de répondre aux souhaits des républiques et de favoriser l'égalité, la liberté.
Le fameux ascenseur social.
Voilà, voilà. Qui a fonctionné à une certaine époque, il n'y a pas de souci, mais ça ne fonctionne plus depuis les années 80. Et là, Illich, peut-être précurseur de ce qui allait se passer, commence à scénariser toutes les failles de cette école, l'arrivée des décrocheurs, l'absentéisme des enseignants, la démotivation d'une partie du corps professoral, tout ça, Illich met le doigt dessus et effectivement, ça réveille les consciences éducatives qui se disent « mais qui c'est ce type ?» Qui est ce bonhomme qui est capable d'aller contre les vaches sacrées de la République, qui sont l'école, l'hôpital et ainsi de suite. Voilà. Et il y va. Et au fond, quand on relit aujourd'hui La Société sans école, on s'aperçoit qu'il avait raison.
Oui, enfin, on peut toujours en discuter. Mais
bien sûr.
Il a cette théorie de la contre-productivité. Il y aurait un seuil de croissance à partir duquel l'activité d'une institution se retournerait contre le but qu'elle s'est donné. Par exemple, l'instruction pour l'école. À partir d'un moment où il y a trop d'élèves, disait l'école se retourne contre les élèves. Mais c'est la même chose pour l'hôpital, au fond. Hein. L'hôpital doit nous soigner, mais il avait prévu qu'à partir d'un certain moment, les hôpitaux vont lentement s'engorger, puis se dégrader, le personnel soignant va s'épuiser et la profession se bureaucratiser.
Oui, alors c'est au fond la résultante d'un travail beaucoup plus collectif qui a été mené, non pas par Illich, mais par Leopold Kohr, qui était un anthropologue américain assez connu, qui avait inventé ce concept de « small is beautiful ». Et au fond, la thèse de Kohr, qui était simpliste à tel point que tout le monde l'a compris rapidement, c'est que quand quelque chose est gros, c'est que ça va mal. Et donc, il l'a appliqué aux institutions publiques, d'abord, et en l'occurrence, l'école, et évidemment, l'hôpital. Ensuite, les transports. Mais l'hôpital, ça a été le cas de figure le plus visible, le plus tangible, tout simplement parce que la technique et les hommes se réunissent dans un lieu. Et la bureaucratie, la technocratie a envahi, plus la technique a envahi le système et a donc créé ce phénomène de contre-productivité qu'il a désigné clairement avec un polytechnicien qui s'appelle Jean-Pierre Dupuis, qui est assez connu. Ils étaient une douzaine à travailler sur le sujet quand même. Il n'est pas arrivé comme ça avec des idées. Mais il a façonné un monde de demain qui ressemble un peu à celui d'Orwell, mais qui est beaucoup plus pratique au fond. C'est-à-dire qu'il explique comment, plus on grossit les choses, plus on grossit les institutions, c'est le cas de l'État, plus on crée en son sein de quoi contrebalancer toutes les vertus que peuvent avoir cette institution.
Alors, autre exemple, Jean-Michel Djian, Ivan Illich voulait discréditer l'automobile. Hein, sur les transports, il a beaucoup écrit également et il accusait l'automobile de restreindre notre mobilité et d'engendrer un manque de temps sans précédent, ce qui est assez paradoxal dans les années 70. Oui. Or aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Dans une ville comme Paris, par exemple, un des adjoints d'Anne Hidalgo vient d'annoncer qu'on allait supprimer la moitié des places de stationnement. On veut se débarrasser de l'automobile, voilà, et lui préférer la bicyclette.
Voilà, c'est exactement comme les autres vaches sacrées. La voiture en est une, c'est un produit des Trente Glorieuses. On sacralise la voiture. Lui dit déjà, et là il se positionne comme un écologiste, un primo-écologiste radical, il dit la voiture va tuer la ville, donc va tuer les hommes qui y habitent. Pareil, à l'époque on lui rigolait au nez, en tout cas le regardait de haut, mais pratiquement qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a lancé La Convivialité, enfin son livre La Convivialité, mais également avant un autre livre majeur qui s'appelle Énergie et Équité, c'est-à-dire qu'il a intégré la norme énergétique dans le calcul de ce qui était possible de faire dans des villes pour bien vivre et vivre en convivialité. Voilà. Et il dénonce la présence des voitures, la sacralisation de la voiture, mais il dit surtout, et là c'est nouveau, il dit c'est le vélo qui va gagner la partie. c'est le vélo qui un jour va s'imposer parce qu'il est fabriqué pour être contrôlé par l'humain, par l'homme. C'est lui qui décide d'acheter son vélo, de l'entretenir si besoin. Mais c'est le vélo qui va s'imposer parce qu'il ne pollue pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, à l'époque...
Et puis, il s'arrête où on le désire. On ça n'est pas comme
veut.
Les transports
voilà.
en commun.
C'est ce qu'il appelle le monde vernaculaire, c'est-à-dire les circuits courts. On essaie de garder la main sur son propre destin au présent. Voilà. Donc, le vélo fait partie de cela. Et d'autant plus que les voitures se sont de plus en plus technologisées. Et du coup, plus personne ne sait comment fonctionne une voiture. Le vélo, on continue. Et aujourd'hui, c'est flagrant. On aime le vélo parce qu'on sait remettre la selle, on sait fonctionner. Voilà. Et puis surtout, il y a moins de problèmes pour le garer. Il n'y a pas de plaque d'immatriculation. Donc, il n'y a pas d'administration. Voilà. Le vélo, à l'époque, ce qui se passe, ben c'est tout simple. Tout le monde regarde ça de haut, sauf deux maires, Michel Crépeau à La Rochelle, qui installe les premières bicyclettes publiques à destination des citoyens. Et puis à Montréal, le maire, M. Drapeau, à l'époque. Voilà. Mais c'est passé inaperçu.
Il y avait Amsterdam, quand même.
Il y avait Amsterdam, effectivement, je dirais les Pays-Bas en entier, à cause de la géographie de ce pays. Mais aujourd'hui, le vélo est redevenu non pas un must, mais quasiment une obligation pour vivre à peu près correctement en ville.
Ivan Illich, l'homme qui a libéré l'avenir, c'est donc le livre de Jean-Michel Dian qui vient de paraître au Seuil. Merci Jean-Michel.
Merci.
Europe 1.
C'est arrivé cette semaine, se termine. On se retrouve demain à 9h avec Christian Salmon qui publie La tyrannie des bouffons, tout un programme.